RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Indonésie, dans le plus grand archipel du monde. La loi de la capitale, Jakarta, est la même pour les 34 provinces, toutes sauf une, la province d'Aceh, au nord de l'île de Sumatra. Là-bas, 30 ans de lutte armée, suivie par le tsunami meurtrier de 2004, ont débouché sur la négociation d'un statut de semi-autonomie et à des règles à part. En Indonésie, qui est aussi le pays à majorité musulmane le plus peuplé au monde, Aceh est donc devenu la seule région où la charia, une loi issue de l'interprétation du Coran, est appliquée. Contrairement à Bali, la province la plus touristique du pays, où l'hindouisme domine et où l'alcool coule à flot, les plages d'Aceh sont largement boudées par les voyageurs, tandis qu'Arabica et Robusta sont les seuls à inonder les terrasses des nombreux cafés, le tout sous l'œil de la police de la charia, attentive au respect des bonnes mœurs. Notre correspondant en Indonésie s'est rendu au nord de l'île de Sumatra, à Banda Aceh, pour rendre compte de la vie quotidienne au cœur de cette province indonésienne à part. Aceh, l'anti-Bali, c'est un grand reportage de Joël Bronner.
Fira chante, Fira fume en public, Fira se défait régulièrement de son voile au café. Il n'y a pas de doute, Fira détonne à Banda Aceh, la capitale de quelques 230 000 habitants de la province conservatrice d'Aceh, au nord de l'île de Sumatra. Alors lorsqu'on demande à cette Indonésienne de 34 ans si elle se sent libre...
Not really. Pas vraiment, non. Ici, à Banda Aceh, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent du fait de la charia que je trouve vraiment gênantes et oppressantes au quotidien, que ce soit dans les moments de détente ou au travail. Je pourrais citer par exemple les restrictions horaires en fin de journée ou le fait d'être séparés, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, quand on assiste à un concert. Donc, pour ce qui est de me sentir libre, non. Je ne peux pas dire que je me sente tout à fait libre. C'est simple, il y a des choses qu'on peut faire ailleurs dans le pays, mais qu'on ne peut pas faire ici à Banda Aceh. Des choses qu'on aurait pourtant envie de faire. Mon travail, par exemple, c'est d'organiser des événements. Moi, je souhaiterais que certains de ces événements puissent durer jusqu'à minuit, mais c'est impossible à Banda Aceh, car la loi nous impose de ne pas aller au-delà de 10 ou 11 heures du soir.
Puisqu'elle se sent limitée dans ses mouvements, c'est encore et toujours en chanson que Fira voyage le plus librement et le plus loin.
When you make the California trips, get your kicks on Route 66.
André, lui, s'est d'abord rêvé peintre, sans grand succès. Armé d'une bonne maîtrise de la langue anglaise, il a ensuite tenté de se lancer dans le tourisme. Mais là non plus, la réussite n'a pas été au rendez-vous. Car malgré ses plages, Aceh n'est pas Bali, et le conservatisme ambiant décourage l'immense majorité des vacanciers étrangers. Les guides de voyage consacrés à l'Indonésie évoquent d'ailleurs rarement la province, à part pour dissuader les lecteurs d'y mettre les pieds. Car à Aceh, des règles édictées par la religion, il y en a en effet plus que partout ailleurs en Indonésie. À l'image par exemple de la prière du vendredi, la plus importante de la semaine, à laquelle tous les hommes musulmans de Banda Aceh sont supposés assister. C'est pourquoi vers midi, toutes les fins de semaine, la police de la charia fait la chasse aux contrevenants, dont Andri, l'aspirant guide touristique, a déjà fait partie.
Ça s'est passé l'an dernier avec les femmes de la police de la charia. Dans le café où je me trouvais, il n'y avait pas de fenêtre, donc personne ne pouvait nous voir de l'extérieur. Et malgré ça, des policières ont toqué à la porte et elles ont poussé l'un des serveurs à ouvrir. Et certains clients du café ont immédiatement attrapé leurs affaires et se sont enfuis. Mais moi, j'ai été plus lent à réagir. J'avais mon ordi avec moi et le temps que je le ferme, il y avait une policière en face de moi. J'étais super gêné. Elle m'a demandé ce que je faisais là, au café, puisque j'étais censé être à la mosquée. Alors j'ai répondu qu'il faisait trop chaud et que j'avais la flemme d'y aller. Et la femme m'a dit, « Tu sais, il fait encore plus chaud en enfer. Qu'arrivera-t-il si tu meurs demain et que tu vas en enfer ?»« Mais je ne vais pas mourir demain », je lui ai répondu. Enfin bref, une autre policière a dit à la première, « Discute pas avec lui, prends seulement ses papiers pour qu'on puisse dénoncer son comportement. » Alors lui, à ce moment-là, j'ai pris peur et d'un seul coup, j'ai pris mes affaires et je suis parti.
Au-delà de cette anecdote qu'il raconte en rigolant, Andri explique à sa manière que les codes religieux qui régissent les mœurs à Aceh n'ont finalement pas d'impact particulier sur son quotidien.
Je ne ressens pas vraiment l'influence de la charia. Par exemple, la charia interdit l'alcool et la drogue. Moi, je ne bois pas d'alcool et je ne consomme pas de drogue. Je ne cherche pas non plus à avoir une vie sexuelle débridée, c'est pas dans mon tempérament. Dans un autre registre, la loi interdit aux garçons de porter des shorts pour des raisons religieuses. Mais moi, sincèrement, j'aime pas porter les shorts à cause de tous les moustiques qu'on a ici. Et puis le soir, de toute façon, il fait trop frais.
Tout le monde ne tolère pas aussi bien qu'Andri les règles strictes liées à la charia, en particulier ceux chez qui la contestation du système est un principe et dont le mode de vie est aussi moins hygiéniste que celui d'Andri. La communauté punk. Il y a 5 ans, les punks de Banda Aceh s'étaient retrouvés malgré eux sous les projecteurs médiatiques. À l'issue d'un concert qu'ils organisaient, ils avaient tous été arrêtés avant de subir un rasage de crâne collectif. Un épisode que Bolong, qui fait figure de chef de cette communauté, n'a pas oublié.
À l'époque, on a été enfermés 3 jours au commissariat. On était 60 dans une pièce minuscule de quelques mètres carrés à peine. Là-dedans, même s'asseoir, c'était compliqué. Alors, dormir... Pour la nourriture, on était mis en rang pendant la distribution avant d'être renvoyés dans cette cellule. Nous, on voulait simplement s'exprimer, montrer qui on était. À votre avis, qui n'aurait pas eu le cœur brisé par son propre pays après ça? On voulait juste montrer qu'on pouvait, seul, organiser un événement. Mais voilà le résultat, ça a été ça.
Si cet épisode du rasage collectif des punks de Banda Aceh appartient aujourd'hui au passé, un graffiti sur le mur d'une des ruelles qu'il squatte, l'équivalent de Nique la police, vient rappeler que les rancœurs sont tenaces et les rapports toujours tendus.
Qu'ils appartiennent à la police de la charia ou à la police municipale, les policiers ne nous considèrent pas comme des êtres humains mais comme des déchets. C'est pour ça qu'on est en conflit. Nous, on est déterminés à rester là et s'ils veulent nous arrêter, on résistera. Pour moi, le principe de la charia, ce n'est pas de limiter la volonté des autres mais de rendre la vie des gens meilleure. Qu'est-ce qu'ils y connaissent, les humains, à la loi de Dieu? Le rapport de chacun avec le Créateur, c'est quelque chose de très personnel. Les policiers, eux, ils ne se remettent pas en question. Donc voilà, moi, je ne suis pas opposé à la charia en soi, mais aux autorités qui la mettent en œuvre.
Introduite à Aceh par le gouvernement indonésien peu avant l'an 2000, la charia, c'est-à-dire une loi inspirée par l'interprétation du Coran, représentait à l'époque une sorte de cadeau à cette région conservatrice, destinée à apaiser la lutte armée indépendantiste qui y faisait rage depuis 1976. Son instauration n'est pourtant pas parvenue à faire cesser la guérilla, qui s'est poursuivie jusqu'au 26 décembre 2004, le jour où le tsunami a ravagé la province sécessionniste. Après 30 ans de conflits meurtriers, puis les 170 000 morts causés par ce raz-de-marée, les survivants ont finalement négocié un accord de paix avec Jakarta en 2005. Depuis, la mer s'est retirée, le conflit a cessé, et la charia, elle, s'est mise à être appliquée de manière plus stricte. Ce passé guerrier d'Aceh, l'écrivain Azari Ayoub, 35 ans, passe par la fiction pour l'évoquer. Comme dans son recueil de nouvelles, La femme à la muscade.
J'ai notamment écrit une nouvelle à propos de ma province d'Aceh. L'histoire se situe à l'époque où la loi martiale était en vigueur, c'était entre 2001 et 2003. J'y raconte le quotidien d'un village où de nombreux habitants ont rejoint les rangs de la rébellion séparatiste, ou sont simplement soupçonnés d'y appartenir, et les brutalités des militaires indonésiens auxquels ils sont confrontés en représailles.
Cette rébellion, qui se retrouve au cœur des œuvres de l'auteur, fait partie de l'histoire mais aussi de la vie contemporaine d'Aceh.
Il y avait ici un groupe rebelle, le mouvement de libération d'Aceh, on l'appelle le GAM. L'objectif du GAM était d'obtenir l'indépendance vis-à-vis de l'archipel indonésien. Aujourd'hui, la classe politique dirigeante à Aceh est composée d'anciens membres de cette rébellion et les relations avec l'ennemi d'hier sont apaisées.
Mujahir, 28 ans, est lui agriculteur et homme politique. Il représente le parti Aceh, une émanation justement de l'ancien GAM.
La différence entre faire de la politique ici et ailleurs en Indonésie tient au fait qu'Aceh est un territoire qui n'est sorti de conflit que récemment. C'est-à-dire que 10 ans après la guerre qui opposait le GAM au gouvernement indonésien, on garde à l'esprit qu'il existe toujours un risque de revenir en arrière et de nous retrouver à nouveau en guerre.
À Banda Aceh aujourd'hui, à première vue, la guerre paraît loin et l'indépendance de la région ne semble plus vraiment une priorité pour ses habitants. Mais à écouter Mujahir, l'idéologie de son parti, qui a donc succédé au mouvement séparatiste, n'a pourtant pas fondamentalement changé. Comme si l'indépendantisme avait été mis en veille par pragmatisme, en attendant des jours meilleurs pour se réaffirmer.
Si vous demandez mon point de vue, je pense que la majorité des gens à Aceh souhaitent toujours l'indépendance. Moi, qui suis né ici, qui ai grandi ici et qui ai vu comment l'Indonésie a traité Aceh à l'époque, je désire cette indépendance. Ce qui a changé, c'est la méthode pour tenter de l'obtenir. Dans le passé, nous avons fait la guerre, mais il faut bien admettre que nous n'avons pas obtenu gain de cause avec les armes. Beaucoup de gens ont été tués. Et ensuite, en 2004, il y a eu le tsunami. La paix est probablement la meilleure stratégie pour l'instant, temporairement. Au fond, notre volonté d'indépendance n'a pas disparu, mais nous ne savons pas quand elle se matérialisera.
Cette farouche volonté de liberté et d'indépendance, Mujahir l'exprime d'ailleurs aussi vis-à-vis de la charia. S'il s'enorgueillit sans réserve de la culture islamique de sa région, il trouve en revanche très discutable de forcer les gens à aller prier, par exemple. Sans doute n'a-t-il pas oublié qu'après tout, cette charia qui différencie Aceh de Jakarta, c'est bien la capitale indonésienne qu'il ne porte pas dans son cœur qui leur en a fait don au départ. Changement de décor. Sur une plage au bord de la route, à 30 minutes en voiture de Banda Aceh, Sherifa profite de son week-end pour siroter un jus de noix de coco en compagnie de Weda, une amie d'enfance. La mise en place progressive de la charia, qui fait partie de l'histoire récente d'Aceh, Sherifa se souvient l'avoir vue à l'œuvre.
Je m'appelle Sherifa, j'ai 28 ans. Quand je suis entrée au lycée, la charia n'avait pas encore été mise en place à Aceh. On vivait avec les mêmes règles que tous les autres Indonésiens. C'est pendant ma troisième année au lycée que tout a changé. Ça a commencé avec les uniformes. Il a fallu porter le jilbab, c'est-à-dire une robe longue à capuche. Et il est devenu interdit de porter des vêtements serrés. À cette même période, il y avait encore 2 cinémas à Banda Aceh. Après le tsunami, comme toutes les règles sont devenues plus strictes, les cinémas aussi ont été interdits pour ne pas que les filles et les garçons puissent se retrouver ensemble dans le noir.
Jusque-là occupée à creuser sa propre noix de coco à la cuillère, son ami Weda, 30 ans, originaire de Banda Aceh et de passage pour quelques jours, interrompt son ami pour évoquer une anecdote personnelle survenue peu après l'instauration des nouvelles lois.
Un jour, je portais une veste un peu cintrée et j'étais en train de conduire mon scooter. Un camion de la police de la charia est arrivé et j'ai entendu par mégaphone « À la personne sur la moto de couleur rouge, il est interdit de porter une veste moulante. » Ce n'est qu'une fois de retour chez moi que je me suis demandé « Mais qui conduisait cette moto rouge ?» Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, c'était moi. Au lieu de m'arrêter, j'avais juste accéléré.
Aujourd'hui à Banda Aceh, pour ceux qui souhaiteraient légèrement s'affranchir des règles morales pour une raison ou pour une autre, il faut savoir ruser, comme le décrit à nouveau Sherifa.
Aujourd'hui à Aceh, si des adolescents sont en couple, ils ne peuvent pas se tenir la main en public, c'est impossible. Leur seule option, c'est de se retrouver dans un endroit un peu privé pour pouvoir se parler. Dans un café au calme, par exemple, avec l'atmosphère la plus romantique possible. Mais dans les endroits publics en général, comme ici à la plage, il faut qu'il soit accompagné d'autres personnes, car c'est interdit d'être seulement à deux quand on n'est pas marié.
Sherifa n'est pas la seule à songer parfois à éprouver les règles. Chez Didi, 37 ans, il règne une atmosphère enfumée très peace and love. Son truc à lui, c'est le cannabis, une drogue que le gouvernement central de Jakarta, un des plus répressifs au monde sur le sujet, combat sans tolérance particulière. Mais à Aceh, la semi-autonome, la ganja, comme on l'appelle ici, pousse massivement et jouit d'une sorte d'exception culturelle.
My nickname is Didi. I'm working on one of the government.
Mon surnom, c'est Didi. Je travaille ici comme fonctionnaire.
I've been busted once.
Je me suis fait prendre une fois avec du cannabis. C'est quelque chose de courant à Aceh, vous savez. Concrètement, la police est au courant du phénomène. Et depuis le temps, les consommateurs de cannabis connaissent parfaitement les risques aussi. Moi, par exemple, quand je me suis fait arrêter, les policiers étaient très sympathiques. Je leur ai juste donné un bakchiche et j'étais libre. C'est en 2010 que ça s'est passé. À l'époque, j'ai dû payer l'équivalent de 350 euros et c'était réglé. C'est une forme de corruption, ça se passe tout le temps comme ça ici. Et tout le monde y est habitué, tout le monde est au courant.
En l'occurrence, à Aceh, ce n'est pas la charia qui statue sur le cannabis, mais la loi indonésienne. Car pénalement, priorité est donnée à la loi nationale, qui constitue un premier socle législatif sur lequel viennent se greffer ensuite les décrets religieux locaux. Et à différentes lois correspondent différentes institutions chargées de les faire respecter. Hardy travaille dans la police, il en donne le mode d'emploi.
À Banda Aceh, la police se divise en deux catégories différentes, la police traditionnelle et la police de la charia. D'après la loi en vigueur, qui date de 2014, la police de la charia a pour mission de s'occuper directement de trois types d'infractions spécifiques. La participation à des jeux d'argent, la consommation de boissons alcoolisées et le fait d'entretenir des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage.
Par habitude, on parle le plus souvent de la charia, qui serait l'ensemble des lois de l'islam issues du Coran et de la tradition prophétique musulmane. Il serait en réalité plus juste de parler, à Aceh comme ailleurs, d'une charia. Car partout dans le monde, les lois issues de cette influence religieuse sont adaptées, interprétées, puis appliquées à la loi générale, voire d'ailleurs uniquement à certains pans de cette loi. Un seul exemple. Un voleur pourra se faire couper la main en Arabie Saoudite en vertu de la charia appliquée à Riyad, alors que le même voleur conservera ses 10 doigts dans l'immense majorité du monde arabo-musulman, comme ici à Aceh. Yousni Sabi, 73 ans, est maître de conférence à l'université islamique d'Aceh. Il rentre justement à peine d'Arabie Saoudite après un pèlerinage à la Mecque. Et à la question de savoir s'il existe une charia light à Aceh par rapport, par exemple, au modèle wahhabite rigoriste des Saoudiens, l'enseignant est formel.
Il ne paraît pas pertinent de parler d'une charia qui serait plus douce à tel endroit ou plus dure ailleurs. Il faut comprendre qu'il s'agit de différentes interprétations. En Malaisie aussi, la loi s'inspire de la charia, tout comme on peut la trouver au Pakistan ou en Égypte dans une certaine mesure. Mais ça n'aurait pas de sens d'évoquer une charia permissive par rapport à une charia sévère. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une question d'interprétation. Voilà tout.
Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, l'Aceh de l'après-tsunami est associé à la charia, à cette charia. Et pour ses habitants, la liberté y est plus réduite que dans d'autres provinces indonésiennes, en particulier dans les campagnes, ainsi que pour ceux qui sortent des cadres conservateurs traditionnels, comme la communauté homosexuelle par exemple. Son représentant a d'ailleurs préféré ne pas nous rencontrer par crainte des représailles.
Panglima prang, je panglima prang, katro guo.
Fira, elle, continuera malgré tout à aller au café et à chanter, en espérant qu'Aceh, sa région, lui offre à l'avenir un surplus d'indépendance et s'ouvre davantage au monde. Aceh, l'Antibali, un grand reportage de Joël Bronner, réalisation Jérémy Besset.